fils réplique son seul. Coupez.
Bonjour à vous, bonjour à tous, amis HDRiens, HDRiennes, d'ici, d'aujourd'hui, de demain, nous sommes sur la radio HDR et nous sommes mercredi et le mercredi, on va au cinéma. Et pour aller au cinéma, bah écoutez, là j'ai fait des détours du côté de l'éducation à l'image. Je vous en parle souvent, je vous parle souvent de Normandie Image. Et j'ai rencontré l'une des personnes qui travaille vraiment, vraiment sur l'éducation à l'image, même voir, écoutez, en profondeur, il ne fait pas de la coordination seulement, puisqu'il fait de la programmation, c'est Benoît Carlus, on l'écoute.
Je suis responsable des ressources pédagogiques et des ressources numériques à Normandie Image. Depuis le millénaire dernier, le siècle dernier, j'ai commencé en 1994. J'ai commencé l'expérience est survenue de manière complètement inattendue. Je faisais des études et en même temps je faisais des tournages sans vouloir en faire mon métier. Mais par intérêt, simplement trouver du plaisir à être sur un plateau. J'avais la chance de pouvoir le faire. Et j'ai rencontré un monsieur qui s'appelait Jean-Claude Guézenec sur un tournage, sur un de ses films, qui m'a proposé à la fin du tournage de monter avec lui une opération qui s'est appelée Passeport pour le cinéma, qui consistait à montrer des films en salle à des lycéens et à construire des dossiers pédagogiques et des formations pour les enseignants. Ça m'a plu, j'ai tenté l'expérience et je suis resté. Et c'est devenu Lycéen au cinéma, effectivement, qui aujourd'hui est une opération nationale. L'objectif, ça n'est pas d'éduquer dans le sens strict du terme, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'avoir un savoir pyramidal en sachant quel film on doit avoir vu ou quel réalisateur on doit admirer. Il s'agit de provoquer des expériences de spectateurs. Il s'agit de provoquer des émotions qui dépendent de chacun de nous. Il y a ce que le réalisateur nous livre et puis il y a surtout ce qu'on en fait, suivant ce qu'on vit, suivant notre niveau culturel, notre habitude cinéphilique, suivant notre bagage émotionnel. Voilà, le film va faire écho en nous. Et c'est ce qui m'intéresse.
Et voilà comment travailler les questions autour du cinéma, parce que finalement, voir des films, c'est évidemment génial, en faire, c'est extraordinaire. Enfin, je ne sais pas ce qu'il y a de mieux d'ailleurs, si c'est les voir ou en faire, mais il y a tous ceux qui travaillent autour, comme je vous l'évoque, assez régulièrement. C'est quand même compliqué d'imaginer ce qu'il fait exactement comme travail, je ne sais pas si vous avez compris, là, pour moi, là, comme ça, au départ, je n'avais pas tout compris.
Il y a plusieurs choses. Il y a d'abord faire des programmations et ensuite construire des formations pour les enseignants, parce que ce sont les enseignants qui se retrouvent en salle avec leurs élèves. Donc c'est essentiel qu'ils aient les outils pour aborder les films. C'est construire des parcours pédagogiques. Et puis c'est travailler en relation avec mes collègues qui, eux, font des ateliers de pratique. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus dans le voir, mais qu'ils sont là dans le faire pour expérimenter le geste artistique. Donc c'est mettre tout ça en valeur et puis c'est dialoguer aussi avec nos partenaires qui sont la région, la DRAC, le CNC, les collectivités locales, puisque maintenant on ne travaille plus simplement avec les lycées, mais avec les collèges et les écoles aussi. Ça a commencé par lycéens, ensuite Ginette Dissler avait créé École au cinéma, qu'on travaille sur les académies.
Ginette, elle est au Havre.
Ginette, elle est au Havre.
Donc au Havre, il y avait École.
École est née au Havre. À Rouen est né Passeport pour cinéma, donc Lycéen au cinéma. Et à Évreux est né Collège au cinéma.
On est les plus forts en Normandie.
On n'est pas les plus forts, mais les choses ont fait que les opérations, effectivement, sont nées sur notre territoire. Donc on y est très attaché. Aujourd'hui, elles ont pris une autre dimension. Mais il est essentiel de travailler proche des territoires, parce que les publics ne sont pas les mêmes dans les grandes agglomérations. Nous sommes un territoire rural, nous sommes un territoire avec des populations différentes, des populations parfois fragilisées. Il est important de tenir compte de tout cela. Donc le lien avec le territoire est très important.
Le lien avec les territoires, et puis je précise entre deux, comme il l'a dit de toute façon, puis qu'il le redira, vous avez déjà senti, perçu son humilité, voir un film, évidemment, c'est d'abord voir un film, c'est prendre du plaisir, c'est d'abord à la portée de tous. Après, c'est qu'est-ce qu'on y met derrière, puisqu'il explique qu'il donne des outils aux enseignants. Et oui, mais en fait, on n'est pas dans une notion de ni de verticalité, ni de dogmatisme. Voilà, donc en fait, c'est une espèce de gymnastique intellectuelle, et puis esthétique qu'on fait quand on va au cinéma à force de manger de l'art d'une manière générale. Ça va être pareil quand je vais voir un tableau, je vais l'aimer ou pas l'aimer, j'ai le droit de tout. Après, comment le décoder, puis comment essayer de comprendre vraiment ce qu'a voulu dire, parce que ça s'inscrit dans une époque, etc., etc., ce qu'a voulu dire l'artiste. De toute façon, ce que vous avez peut-être déjà commencé à percevoir, c'est les différences entre les dispositifs. Oui, j'ai une petite gorge d'hiver avec des cordes vocales qui me disent « Dis donc, il faudrait peut-être que tu passes au miel ?» En attendant, nous allons écouter Benoît Carlus qui nous parle des différences entre les dispositifs scolaires.
Alors, le principe est le même, la mise en œuvre n'est pas la même. Dans École au cinéma, nous travaillons notamment à partir d'une thématique transversale qui traverse les trois films programmés dans l'année. Cette année, c'est la musique, l'année dernière, c'était les monstres, voilà. Sur Collège au cinéma, on est plus dans la découverte des genres et des époques cinématographiques, et sur Lycée au cinéma, on serait plus sur la découverte des auteurs, en sachant que tout ça est construit comme un parcours de l'élève et aussi en prenant compte les cinématographies qu'on souhaite différentes de ce que les élèves voient d'habitude, c'est-à-dire des cinématographies de pays peu diffusés, des cinématographies africaines, du Moyen-Orient, asiatiques, etc., ou des films d'auteurs, ou bien sûr des classiques qui sont revisités, je pense à Chaplin, etc.
quand on parle de musique au cinéma, puisque c'est l'un des sujets transversaux, des thèmes transversaux ou transversaux du coup, puisque c'est l'un des thèmes transversaux qui vont être abordés ou permettre d'aborder du coup le cinéma cette année dans Collège au cinéma, si j'ai bien écouté Benoît. Oh, ça rime, c'est merveilleux. Donc là, je vous ai fait écouter un extrait de un morceau de La La Land. La La Land qui est une comédie musicale. Vous allez me dire, c'est facile, si on parle de musique de film, est-ce qu'on parle de comédie musicale? Forcément. Mais La La Land a la particularité de faire des clins d'œil et des références à beaucoup, beaucoup de films. C'était l'un des grands plaisirs de ceux qui aiment et mangent le cinéma. Alors, on enchaîne. Justement, j'ai posé la question à Benoît. Alors, puisque c'est un thème de l'année, et que moi, j'aime bien de temps en temps faire des petits focus comme ça sur les compositeurs et tout, qu'est-ce qui fait qu'on va parler plus de tel film ou de tel film quand on traite de la musique au cinéma?
C'est des films où la musique a un rôle différent. Par exemple, il y a la comédie musicale, mais il y a aussi le cinéma burlesque avec Tati ou Save Our Story, où la musique a un rôle narratif. Et puis bien sûr, la musique qui soit intervient dans l'image, soit illustre un propos. Donc on essaie de voir quel rôle, à travers cette programmation, quel rôle la musique peut avoir dans différents formats et comment elle peut être appréhendée de manière complètement différente par les réalisateurs. Alors nous avons deux comédies musicales, le Magicien d'Oz et Chantons sous la pluie, qui sont peut-être les deux comédies musicales les plus connues au monde. Nous avons donc deux films burlesques, Jour de fête de Jacques Tati et Sidewalk Story, qui est un film de Charles Laine, qui est un Américain qui a réadapté le Kid de Chaplin et qui a beaucoup travaillé l'univers musical. Et puis des deux films plus contemporains où la musique a un autre rôle, La Tortue Rouge, Kerity et la Maison des Contes pour les plus jeunes.
Alors là, la question qui s'est posée, c'est qu'est-ce qu'il fait sur ces films-là, à part les regarder, ou voir à dire, s'il y a ce film-là et on parle de la musique, qu'est-ce qu'il fait exactement sur ces dossiers?
On va faire des dossiers d'accompagnement du film. Les films sont accompagnés non pas comme une illustration à un cours, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de prendre un film pour coller au cours d'histoire, mais pour comprendre le geste que le réalisateur ou le point de vue que le réalisateur a voulu donner à travers ce thème. Donc, suivant les films, on va travailler peut-être la mise en scène, la particularité du film. On va travailler les pistes pédagogiques qui peuvent être appréhendés par les élèves. Suivant les âges, on va travailler simplement la description ou on va aller vers l'analyse de séquences, ou on va mettre des films en ricochet qui s'opposent ou qui se complètent. En fait, chaque film réclame une approche différente. Et cette approche différente doit pouvoir s'adapter aux différents publics. Je parlais de La Tortue Rouge tout à l'heure. La Tortue Rouge, c'est un film que j'aime beaucoup, que j'ai programmé l'an dernier dans Lycéen au cinéma, que je peux programmer cette année à la fois dans Collège au cinéma et École au cinéma. Bien entendu, les élèves ne vont pas avoir le même niveau de lecture du film. Ceci dit, ce film, qui est un conte philosophique, va les toucher à différents endroits, mais va les toucher de la même manière. Il s'agira de mettre des mots là-dessus. Mettre des mots, c'est d'abord exprimer ses émotions. Ça peut se faire à tous les âges. Ça veut dire argumenter. Et puis, ça veut dire aussi comprendre comment est-ce que le film nous fait ressentir ses émotions. Donc, le film sera appréhendé d'une manière tout à fait différente en fonction du public. Moi, mon boulot, ça va être de mettre en place des outils qui vont permettre de comprendre ce film à un enfant, pour un enfant de 10 ans, mais aussi pour un jeune de 18 ans.
Un jeune de 18 ans, autant qu'à un adulte, autant qu'à un petit, évidemment, voir les films, c'est aussi les faire partager, et donc à des degrés différents, avec des langages qui sont légèrement différents. De toute façon, l'objectif étant de faire passer l'émotion, le désir de voir, le désir de découvrir et d'entendre des discours différents. N'oublions pas, je vous le dis assez souvent, un réalisateur, c'est un regard, ce n'est pas une vérité, c'est à peine sa vérité à lui, c'est un regard, c'est un moment. Ça veut quand même dire qu'il faut qu'il les voie, les films, Benoît.
Bien entendu, avant de le programmer, je les regarde. C'est très difficile de défendre un film. Quand je dis défendre, ça veut dire de travailler un film et de le proposer à des publics si on n'y croit pas. Donc il faut bien sûr avoir vu les films plusieurs fois et avoir saisi quelque chose qu'on peut pas, peut-être pas tout de suite définir, mais avoir saisi quelque chose qu'on pouvait tirer dans les films. Tout à l'heure, j'ai évoqué Tati. Quand on travaille sur Tati, c'est tout un univers. Il faut connaître cet univers et comprendre comment est-ce que sa démarche s'épanouit au fil du temps de sa cinématographie. Mais ça, je dirais que c'est autant un plaisir personnel, peut-être même plus qu'un travail. C'est du travail quand même. C'est la chance que j'ai.
La chance que j'ai moi aussi, puisque je vous fais partager tout ça. Je souhaitais faire un petit détour du côté de Tati. Comment est-il possible de vous parler de Tati et de vous parler de la musique de Tati sans vous en donner un extrait? J'ai choisi un peu au hasard, ou on dit pas vraiment au hasard, mais d'ailleurs c'était très difficile puisque finalement elle me semble assez connue toute et puis qu'elle résonne dans nos têtes. Bref, en tous les cas, j'ai pris Jour de fête. Jacques Tati et sa musique qui est tellement... Enfin, c'est pas lui qui a fait la musique. Et là, j'ai un grand trou. Et là, je me suis lancée dans un truc que j'aurais pas dû parce que j'ai pas marqué exactement qui était le... C'est horrible, c'est la honte. Je vais regarder tout de suite. Mais d'abord, je vais continuer sur ma lancée puisque nous étions avec Benoît et que nous parlons de la musique qui parle. Quand est-ce qu'elle parle, la musique? Qu'est-ce qu'elle raconte?
La musique, Tati travaille beaucoup la musique. Elle sert à plusieurs choses dans son cinéma. Elle sert à rythmer. C'est peut-être ce qui peut paraître le plus évident au spectateur à la découverte d'un film de Tati. Mais quand on regarde bien, parfois elle est en contrepoint de ce que l'image nous montre. C'est-à-dire qu'il y a un petit décalage, et dans ce décalage, c'est justement ce qu'on évoquait tout à l'heure. C'est là où le spectateur, chaque spectateur va remplir ce petit décalage, va trouver à remplir cet espace qu'il y a entre le discours de l'image et le discours de la musique. Et puis la musique chez Tati, elle va permettre aussi de souligner quelque chose dans une image. Tati fait des plans très larges où il y a souvent beaucoup de comédiens ou de figurants, mais qui ont tous un rôle, qui ont tous une action. Notre œil peut être un peu perdu dans un plan de Tati. C'est peut-être le cinéaste le plus démocratique du monde. Il laisse la place à tout le monde. Mais le son, c'est-à-dire sa musique, va nous attirer dans un coin du plan. Sans y réfléchir, on va faire attention à ce qui se passe là, au fond, ce chien qui aboie. Et en fait, ce chien qui aboie regarde le poissonnier et regarde le poisson qui a la gueule ouverte et qui semble lui-même aboyer après le chien. Ça, c'est la musique chez Tati qui nous permet de le voir. L'utilisation de la musique, elle est très différente. Par exemple, tout à l'heure, on parlait de la Tortue Rouge. Si on évoque la Tortue Rouge, c'est parce que la musique va sembler, au début, accompagner les sentiments du personnage, puisqu'il y a un personnage principal qui est seul, et la musique semble accompagner ses gestes. Et puis, on se rend compte, là aussi, qu'elle peut amener un discours un peu différent. Je pense à une scène où il y a un raz-de-marée, et on pourrait s'attendre à une musique qui accompagne le raz-de-marée, c'est-à-dire une musique avec des tambours, avec une musique de cataclysme, comme on peut en voir dans des films de catastrophe. Or, la musique qui accompagne ce raz-de-marée est plus proche de l'univers nostalgique, comme si le monde qu'on voyait disparaître, en fait, était déjà absent. Cette utilisation de la musique très particulière, quand on y fait attention, elle est passionnante, parce que ça multiplie l'éventail des regards, et ça multiplie donc les discours qu'on peut avoir autour du film.
Vous avez donc bien entendu le regard que Benoît porte sur ça, ou essaye de faire porter, en tous les cas, essaye de partager. Je reviens sur mon erreur, ou mon oubli, ou mon vide, mon néant. C'est Jean Yatov qui a fait, Yatov ou Yatové d'ailleurs, je ne sais pas comment on le prononce, qui a fait la musique de Jour de fête de Jacques Tati. Il a changé de compositeur, il y en a eu d'autres. Là, celui-ci fait partie évidemment des incontournables, mais de toute façon, les films de Tati sont d'une richesse absolue, infinie, et nous avons la chance ici d'avoir un cinéma qui nous repasse de temps en temps des classiques. Alors si un jour l'Omnia, ici à Rouen, si l'Omnia un jour vous passe du Tati, n'hésitez pas une seconde à aller prendre ce plaisir. Et puis si vous avez un doute après, eh bien appelez-moi, joignez-moi et on en parle. Je me ferai mais vraiment une immense joie d'en parler avec vous. On continue sur la musique, évidemment, et sur ce que Benoît a nous raconté sur les compositeurs de musique.
Bien sûr, quand on parle de la musique, c'est Hitchcock, on parle de Bernard Herrmann. Mais on peut pas non plus demander à des élèves de travailler la musique comme des spécialistes. Il s'agit vraiment de leur faire toucher du doigt l'acte de mise en scène. Et la mise en scène, c'est l'image, mais c'est aussi la musique, c'est aussi les sons, c'est aussi... C'est un ensemble qu'il faut réussir à faire tenir debout. Donc on va plutôt approcher cet ensemble et faire ressortir un des éléments sans aller trop loin. Quand on parle d'une analyse de séquence, il ne s'agit pas que les élèves deviennent d'un seul coup des critiques d'art ou des réalisateurs hors pair. Il s'agit de leur faire prendre conscience que l'espace est construit de telle ou telle manière, qu'il y a des choses qu'on voit, qu'il y a des choses qu'on ne voit pas. Donc c'est un choix. Et la musique est un élément qui fait partie de ce choix pour construire un discours. Nous faisons le choix de travailler avec des élèves de niveaux très différents. Il ne s'agit pas de se faire d'eux des spécialistes.
Ni non plus d'ailleurs d'en faire des passionnés, ni non plus, mais ça serait génial par contre, d'en faire des cinéphiles ou des musiciens en herbe, rien du tout. Le tout étant de partager encore une fois du plaisir et puis de découvrir que les choses se font non pas, surtout aujourd'hui avec le téléphone portable, j'allais dire, non pas en claquant des doigts pour rien comme ça à vide, mais elles ont du sens. Même si le sens n'est pas toujours compris et pas toujours partagé. Et tant mieux d'ailleurs s'il n'est pas toujours partagé. Avant de passer à la vie presque personnelle, évidemment on ne sera pas sur du vrai perso, mais presque personnelle de Benoît Carlus, je ne peux pas m'empêcher de vous passer encore un petit morceau de musique puisqu'il fait partie des grands classiques. C'est Herrmann, dont d'ailleurs Benoît a parlé tout à l'heure, puisque lui, pour le coup, il a fait la musique des films de Alfred Hitchcock.
Thank you.
Moi, je me les mets en intraveineuse. J'adore ces musiques-là, j'ai pas besoin de voir les films. Mais évidemment, peut-être, d'ailleurs, je sais pas, que dans mon inconscient, ça a joué et que c'est parce que j'ai vu les films et que je revois les images. Je suis pas sûre. Cette énergie est extraordinaire. Là, nous écoutions l'ouverture de North by Northwest d'Alfred Hitchcock. Et évidemment, c'était une musique originale créée par Bernard Herrmann. Et du coup, je me suis demandé, puisqu'effectivement, on va voir parfois des films parce qu'on n'a pas le choix, parce que c'est comme ça, parce que c'est notre boulot. Mais lui, Benoît, il va au cinéma, des fois, il va...
J'aime des cinémas très très différents. Quand je vais au cinéma, d'abord, j'y vais par plaisir. C'est-à-dire que je ne suis pas dans une démarche analytique quand je regarde un film. Je suis spectateur complètement. Et c'est en sortant de la salle que là, si le film nous a intéressés, on se dit « Ah oui, il n'y avait pas de musique du tout. » et ça permettait de créer une certaine ambiance. Et c'était super. Ou alors, j'ai trouvé la musique, elle était vachement bien. C'est à partir de là qu'on commence à réfléchir sur le film, pas pendant la séance. Pendant la séance, il faut prendre du plaisir et le réalisateur passe un contrat avec nous, nous fait rentrer dans un univers et il faut se plonger dans cet univers pour apprécier le film. Si on commence à réfléchir à la façon dont c'est fait pendant le film, généralement c'est que le film, il nous intéresse pas trop. Je suis un spectateur absolument banal quand je suis dans une séance de cinéma.
Banal, je sais pas si qui que ce soit est vraiment banal. En tous les cas, il fait le spectateur lambda et il fait que profiter du film, évidemment, et c'est ce que je vous propose, évidemment, toujours pareil. Cela dit, l'autre question qui vient assez régulièrement avec les uns et avec les autres, c'est que j'ai posé aux exploitants, que j'ai posé aux coordinateurs, ça, vous l'entendez régulièrement, mais combien de films ils voient par an ?
Depuis la semaine dernière, sur l'année, je serais incapable de le dire. Depuis la semaine dernière, j'en ai vu 7, dont 6 pour le boulot. Alors, ça veut pas dire que j'ai été 7 fois au cinéma. Hein. Je peux pas aller tout le temps au cinéma, j'aimerais bien. Mais ça veut dire que, à travers les DVD, à travers... il faut se constituer une base de films. Là, j'ai l'objectif de construire ma programmation pour lycéens au cinéma de l'an prochain. Donc, j'ai regardé des films du patrimoine... un Edward Hawks, j'ai regardé un film africain, Yen de Jirun Diop Mambéty, un film français contemporain, deux films français contemporains, j'ai regardé L'heure de la sortie, puis Mange tes morts, enfin voilà. Et puis j'en ai regardé un pour moi, un film de plus de 3 heures, The Irishman de Scorsese. Mais il sort pas au ciné, il est sur une plateforme Netflix, il a été produit par Netflix. Bien entendu, j'espère qu'il sortira en salle parce que, quoi qu'on en dise, l'émotion sur grand écran est quand même plus intense que sur un petit écran.
De Tati et dans Tati par exemple, c'est l'exemple type, il faut regarder sur un grand écran pour aller se balader quoi.
Voilà, les films de Tati, Jour de fête est un film de l'après-guerre, néanmoins c'est sur grand écran qu'on peut profiter pleinement de l'univers de Tati, il est fait pour ça. Et si Scorsese a choisi de faire produire son film par Netflix et de la sortie sur la plateforme, il est évident quand on voit le film qu'il a pensé cinéma et qu'il a pensé grand écran. Mais aujourd'hui, on peut voir les films sur différents supports. Choisissons de voir des films en toute légalité, mais on peut pas se priver du dernier Scorsese. Scorsese, il raconte des histoires qui peuvent paraître semblables. Néanmoins, les aventures humaines qu'il raconte sont à chaque fois différentes.
En ce moment, à l'écran, en salle de cinoche, t'aurais des films à conseiller ?
À conseiller. J'ai des films que j'ai envie d'aller voir. Un film d'animation. J'ai perdu mon corps. L'histoire d'une main qui a perdu son corps et qui est à la recherche de son corps. Dans un genre très différent, j'ai très envie d'aller voir Le Jacuzze de Polanski. Je ne rentrerai pas dans la polémique de Polanski, mais j'ai très envie de voir ce film. Donc ça me fait deux films en salle à aller voir dans les jours qui viennent.
Deux films à voir. Moi, je vous en conseille plus, je vous en conseillerai plus, si ce n'est que l'heure a tourné, que je vais vous quitter sur les dernières petites paroles. Vous savez, les petits rendez-vous et les questions cinéma. On l'écoute et puis on vous se retrouve très vite. Bonne semaine. Questions cinéma. Numéro 3. Benoît Carus. Le cinéma, c'est quoi ?
Le cinéma, ce sont des moments volés à la vie.
À quoi ça sert ?
Ça sert à rien, ça sert à voyager, ça sert à vivre d'autres choses, ça sert à tout.
Ton premier film ?
C'était King Kong que mes parents voyaient, que je regardais caché à travers les vitres de la salle à manger. Et j'avais peur quand même.
un souvenir de cinéma.
J'ai eu la chance de revoir Les Lumières de la Ville sur grand écran. Et je crois que c'est la fois où j'ai le plus pleuré au cinéma.
Une déception ?
J'avais emmené une amie au cinéma et elle a refusé de m'embrasser.